This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Madagascar et au Japon, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Musique, Mathieu Culeron viendra nous parler de soul, de rap, mais aussi de politique et de boxe. À 18h55, l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Ce soir, l'Italie qui s'apprête elle aussi à voter. Une élection qui sonnera, nous dira Vincent, comme un référendum pour ou contre Matteo Renzi. Mais tout de suite, direction la Tunisie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
La Tunisie qui poursuit le long, le douloureux, le difficile travail d'analyse des années de dictature. Regarder frontalement le passé pour tourner la page sans rien oublier des tortures, des violences, des brimades. C'est déjà un exercice extrêmement compliqué pour de vieilles démocraties solides sur leur base. Ça l'est encore plus quand les heures sombres datent quasiment d'hier. Voilà l'un des défis, en tout cas, de la jeune démocratie tunisienne. On en parle ce soir avec vous, Sophie Bessis. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, chercheuse à l'IRIS, merci d'être au micro de France Inter et je salue par téléphone avec nous Siem Ben Cédrine. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous vos auditeurs de France Inter et à Sophie.
Bonsoir Siem.
Vous êtes présidente, Siem Ben Cédrine, de l'instance Vérité et Dignité, l'IVD. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le but de cette instance, quelle est sa fonction?
C'est une instance de justice transitionnelle, c'est comme les commissions Vérité qui ont lieu à travers le monde, où l'Afrique du Sud a été un petit peu le premier champ où cet exercice a été effectué. Et donc, il s'agit de confronter le passé et de révéler la vérité sur ce passé, tel qu'elle est, sans fioriture et sans instrumentalisation. Et il s'agit surtout de rétablir les victimes dans leur dignité et après cela, bien sûr, définir les responsabilités et réconcilier parce que c'est ça l'objectif final. Et surtout réformer nos institutions pour garantir le non-retour. Parce qu'on ne peut pas édifier une démocratie en gardant le noyau dur d'une dictature.
Alors ça donne très concrètement des auditions publiques d'un certain nombre de victimes donc des années de dictature. Sophie Bessis, avez-vous vu ces auditions qui ont été retransmises à la télévision?
Je les ai regardées à la télévision.
Et alors quels souvenirs en gardez-vous?
Écoutez, je crois que c'est un moment très fort et très salutaire pour la Tunisie. Ces auditions, dans la mesure où elles peuvent faciliter une sorte de catharsis nationale comme cela a eu lieu dans d'autres pays, si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure du Maroc, mais enfin il y a déjà des exemples, la Tunisie n'est pas pionnière en la matière. Hein. Mais je crois que ça a été un moment extrêmement important. Plusieurs chaînes de télévision ont diffusé ces auditions.
Il paraît que ça a été la sidération
et
en Tunisie.
Et ça a été la sidération.
En Tunisie, pardon.
Vous savez, beaucoup de gens... Certains ne savaient pas et d'autres ne voulaient pas savoir ce qui s'est passé, surtout durant les années Ben Ali, mais également durant les années Bourguiba, dans une moindre mesure, on va dire. Mais les années Bourguiba n'ont pas été... La Tunisie, depuis son indépendance, n'a jamais connu de système démocratique. On peut qualifier le premier Bourguiba de système autoritaire à tendance dictatoriale et celui de Ben Ali de vulgairement dictatorial, un régime policier.
Est-ce que vous gardez en mémoire un témoignage particulier d'un Tunisien qui s'est exprimé lors de ces auditions?
Je crois qu'il y en a un qui a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui est, je pense, très important, en disant « Je veux que le tortionnaire se présente devant moi. Je veux qu'il me demande pardon. Et s'il me demande pardon, je pardonnerai. » Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette question du pardon est justement peut-être ce qu'on peut déplorer. Siem disait tout à l'heure que ces auditions et cette instance doivent préparer une réconciliation. Parce qu'effectivement, je pense que l'instance n'est qu'un élément de la réconciliation nationale. Cette instance, vérité et dignité, n'est pas tout. Et que jusqu'à maintenant, me semble-t-il, l'après instance n'est pas vraiment préparée.
Alors, on va venir évidemment, voilà. Sophie Bessis, à cet aspect, bien entendu, à cet aspect des choses. Un souvenir, Siem Ben Cedrine, parmi les multiples auditions publiques qui ont été diffusées donc par les télévisions tunisiennes.
Écoutez, d'abord, il faut savoir que l'IVD a reçu 65 000 plaintes de victimes concernant cette période qui va de 1955 à 2013. Et sur les 65 000, l'IVD a fait des auditions à huis clos concernant 15 000 personnes. Ceux qui ont été sélectionnés pour pouvoir faire des auditions publiques, et ça n'a commencé que le 17 et le 18 dernier, enfin de ce mois, ils sont quelques-uns seulement. Donc ce que nous avons essayé de montrer à la Tunisie, que il y a des crimes de système. C'est la même machine qui va broyer la dignité d'un individu situé à Gabès et l'autre situé à Nabeul et l'autre situé à Tunis. C'est la même machine qui écrase, c'est la même machine qui tue, c'est la même machine qui passe à la moulinette la dignité humaine et qu'il y a de l'impunité. Parce que en l'espace de 3 semaines, 3 personnes meurent sous la torture, sous les mains des mêmes personnes, et il y a de l'impunité. Et ça recommence parce que il y a de l'impunité. Donc ce que l'IVD a essayé de montrer, c'est que si nous voulons établir une démocratie, un état de droit, où la loi est ce qui va régir les liens entre les citoyens, il est impératif que l'État soit celui qui protège les libertés et les droits, et pas celui qui est la source de la violation. Parce que toutes ces violations ont été commises par des fonctionnaires de l'État, au nom de l'État et pour une raison d'État.
L'IVD, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est l'instance Vérité et Dignité, donc cette instance qui travaille sur les années de dictature en Tunisie et que vous présidez, Siem Ben Cedrine. Sophie Bessis, est-ce qu'il y a eu des débats, et si oui, de quelle nature, autour de l'organisation même de cette justice transitionnelle ?
Il y a eu de très nombreux débats, et je dirais même des polémiques plus que des débats. Elles ont porté sur 2 points principaux. Il y en a des tonnes, mais je ne peux pas les évoquer tous. Le premier débat a porté autour du périmètre même de cette institution.
Large, là, tout de même.
Voilà, très très large, justement. Et la largeur de ce périmètre a été critiquée. D'abord la date, 1955-2011, c'est-à-dire 1955, c'est avant même l'indépendance. L'indépendance date du 20 mars 1956. Et beaucoup ont reproché, alors là ce n'est pas la faute de l'instance elle-même, mais de l'Assemblée constituante qui a instauré, qui a créé cette instance. C'est une date très politique pour l'histoire de la Tunisie, puisque c'est la date de la dissidence, qu'on a appelée la dissidence youssefiste en Tunisie contre Bourguiba. Ben Youssef représentant à l'époque la tendance arabo-islamique de l'opinion tunisienne, Bourguiba représentant plus sa tendance modernisto-occidentalo-centrée, disons, on va dire ça comme ça. Et donc, le choix de 1955...
Deux mondes, à l'époque.
Peut-être encore deux mondes aujourd'hui, peut-être d'ailleurs.
Peut-être aussi, oui.
Mais c'est pas sûr, on peut en discuter. Cette date a été très critiquée dans la mesure où cette date a peut-être été soufflée par une des tendances au pouvoir en Tunisie à l'époque de l'Assemblée constituante et qui était majoritaire en cette constituante. Donc ça a été très critiqué. Deuxième type de critique également, c'est pourquoi avoir mélangé les crimes politiques, les crimes de torture, les crimes avec les crimes économiques. Non pas qu'il n'y ait pas de crime économique. La notion de crime économique existe et on sait que certains ont voulu la mettre de côté avec une loi qui heureusement a capoté sur la réconciliation nationale, mais fallait-il mettre crime politique, crime de torture, crime contre la liberté, crime contre la dignité avec les crimes économiques, ne fallait-il pas... Qui trop embrasse mal étreint dans la mesure où ces crimes économiques sont mal définis, qu'est-ce qu'un trafic d'influence juridiquement, etc. Deuxième type de critique, ça a été sur le fonctionnement lui-même de l'instance, dans la mesure où beaucoup de reproches ont été faits à Siem Ben Cedrine. Je ne les répéterai pas à l'antenne. Elle saura s'en défendre elle-même.
Mais citez-les tout de même pour l'intelligibilité de notre débat et sans esprit polémique.
Disons qu'on a reproché à Madame Ben Cedrine, à Siem, de son autoritarisme parfois et sa volonté, disons, de tout contrôler. Le fait que plusieurs personnes qui faisaient partie de l'instance l'ont quitté. en critiquant la gestion de sa présidente. Voilà. Et donc c'est les deux
grands angles.
Ça, c'est les
deux grands angles.
Maintenant, ce que je voudrais,
critique.
Moi, j'ai une question.
Alors,
à poser
un mot
à
et puis on fait tourner la parole.
C'est,
interpeller Siem Ben Sedrine
elle a
si
dit
vous
après,
voulez.
Non, c'est une question que j'ai à lui poser, non pas une interpellation. 15 000 auditions privées. Selon quels critères ont été choisis les personnes qui sont passées en audition publique? J'aimerais bien savoir les critères qui ont été définis pour cela.
Siem Ben Sedrine.
Écoutez, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que ce que ne dit pas Madame Sophie Bessy, c'est que l'IVD est dirigé par un conseil. Et moi, je suis l'exécutant des décisions du conseil. Et qu'il faut savoir une chose, c'est que les critiques contre la présidente sont des critiques très souvent cachées contre le processus lui-même par des gens qui ne voulaient pas de la justice transitionnelle, qui ne voulaient pas de la révélation de la vérité. Ça aussi, c'est la chose qu'on ne dit pas assez, parce que bien sûr, vous savez, les médias hérités de l'ère Ben Ali, ce sont eux qui continuent de travailler et donc qui font de la désinformation. La deuxième chose, vous savez, aujourd'hui, les Sud-Africains et les Péruviens et les Latino-Américains disent « on aurait dû suivre l'exemple des Tunisiens en liant les crimes de corruption aux crimes de droits humains ». Pourquoi ? Parce que très souvent, et là on a vérifié en faisant les investigations sur les plaintes des victimes, l'origine de la violation de droits humains est souvent un mobile de corruption. Parce que je veux capter l'argent public, celui qui parle, celui qui ose dire « c'est pas bien », eh bien celui-là, on l'accrase, on le met en prison, on le met dans la moulinette et on le torture. Donc il y a un lien direct. Et nous avons beaucoup de cas. D'ailleurs, les prochaines auditions publiques qui vont avoir lieu les 17 décembre et le 14 janvier vont traiter de ces cas de victimes de la corruption qui commencent par, c'est des hommes d'affaires à qui on confisque tous leurs biens et ensuite, parce qu'ils ont protesté, on les met en prison et ils seront torturés. Donc, il y a un lien et aujourd'hui, tous les experts en justice transitionnelle, presque tous, pas tous, bien sûr, il n'y a jamais une unanimité, considèrent que le fait d'avoir fait le lien entre la corruption, qui peut être le mobile, et la question de la violation des droits humains, c'est un juste choix que la Tunisie a fait dans sa loi organique.
Et Madame la Présidente, Siem Ben Sedrine, quel est le critère de sélection donc pour les auditions publiques? C'est la question que vous posez Sophie Bessy, c'est qui est très intéressante.
Je réponds tout de suite. Le premier critère, c'est d'abord que les cas sont complètement, l'investigation des cas est achevée. C'est-à-dire que, parce que nous avons des unités qui sont dirigées par des juges à l'intérieur de l'IVD, et ils ont donc achevé l'investigation, ils ont convoqué et les auteurs de violations, et les témoins, et les victimes, et ils ont pris les documents d'archives, etc. Donc, c'est des dossiers complètement élucidés. Et nous avons les preuves du fait victimaire. Les personnes qui ont été exposées on expose une douleur. Ils ont été choisis parce que d'abord leurs dossiers ont déjà été achevés en termes d'investigation. Ensuite, nous avons une diversité. Diversité de genre, donc hommes et femmes, diversité géographique, diversité d'étages historiques et diversité de types de violations, parce que l'IVD a identifié 32 types de violations et 18 étages historiques où des tensions ont eu lieu en Tunisie ayant produit des victimes, des tensions politiques qui, au lieu d'avoir été résolues par des voies pacifiques, par les voies qu'on trouve en démocratie, ils sont résolus par la violence, par les prisons et la mort ou l'assassinat ou les homicides ou les disparitions forcées, etc. Et donc, il s'agit de montrer comment ce système continue de vivre par les tensions, par la gestion violente des tensions et ne se donne pas les moyens de résoudre les problèmes par la conciliation. Et donc d'offrir aux Tunisiens une voie pacifique de médiation pour résoudre les problèmes.
Sophie Bessis, je vous donne la parole afin que le débat se noue de manière féconde avec Siem Ben Sedrine.
Oui, sur les 15 000 auditions, je suppose qu'il a été assez difficile de choisir un aussi petit nombre d'exposants, disons, devant la totalité des Tunisiens. C'est pourquoi je posais la question de ces critères, parce que certains ont critiqué un peu peut-être l'appartenance politique à part un seul, un peu trop uniforme, disons, de ces personnes. Mais je n'en persiste pas moins à penser que ces opinions ont été un moment important de la vie politique tunisienne, incontestablement. Si elles continuent continue, si ceux qui s'exprimeront, ceux et celles qui s'exprimeront, parce qu'il y a eu des femmes effectivement torturées, il y a des femmes qui ont subi des violations extrêmement importantes des droits humains, puisqu'on est si ceux et celles qui apparaîtront les 17 décembre et 14 janvier, je rappelle pour les auditeurs de France Inter qu'il ne s'agit pas de date neutre, 17 décembre c'est le jour où Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu, et le 14 janvier c'est le jour de la fuite de Ben Ali. Donc vous voyez que les dates des auditions sont elles-mêmes très très symboliques. On peut espérer peut-être que ces profils soient un petit peu plus diversifiés lors des prochaines auditions. Et il faut attendre, je crois que ce sera très important, peut-être aussi important que les auditions des victimes, les auditions des tortionnaires. Ça aussi, je crois que
ça
cela
va être un moment,
extrêmement important du travail, du résultat, disons, du travail de cette commission.
On a très peu de temps, Siem Bensedrine, pardon, pour cette dernière question, et excusez la trivialité du terme. Comment voyez-vous l'atterrissage de tout ce travail qui consiste donc à relire les pages douloureuses de l'histoire de la Tunisie?
L'IVD va achever son mandat dans un an et demi. Elle est supposée avoir achevé ce travail de révélation de la vérité, ce travail de définition des responsabilités et surtout le travail de réforme institutionnelle. Et donc, si vous voulez, le résultat de notre travail, c'est de montrer aux Tunisiens que, quelles que soient nos divergences, nous pouvons vivre ensemble. Quelles que soient nos divergences, nous pouvons résoudre les problèmes pacifiquement. Et je voudrais dire à Sophie qu'il n'y a pas seulement les familles politiques qui ont déposé des plaintes. Il y a des syndicalistes, il y a des gens qui sont les victimes des émeutes du pain de 1985. Il y a aussi des groupes ethniques et religieux qui ont été discriminés, comme la communauté juive de Tunisie qui a déposé une plainte, la communauté noire de Tunisie qui a déposé une plainte, la communauté amazigh qui a déposé une plainte, et d'autres encore, je ne vais pas vous dire tous ceux qui ont... Et on va essayer de montrer aux Tunisiens que, contrairement à ce que nous nous disons de nous-mêmes et ce que nous voulons nous profiler comme image, que nous sommes des gens bien, pacifiques, etc., eh bien, c'est pas vrai. Nous avons écrasé nos minorités, nous avons violenté même des gens qui sont de simples syndicalistes, nous avons tué, nous avons fait des choses qui sont pas beaux à voir, mais nous nous mettons en face nos vérités pour pouvoir justement avoir le courage de dire voilà comment nous devons traiter, pas par l'amnésie, mais par la mémoire, toutes ces violences que nous avons faites à nous-mêmes, à nos citoyens, et qu'il faut maintenant oser réparer, oser garder en mémoire et surtout réformer en vue de pouvoir vivre ensemble dans un état de droit où la loi s'applique à tout le monde. L'État, ce sont des gens qui respectent la loi et qui protègent les droits et les libertés des citoyens.
Siem Bensedrine, présidente de l'instance Vérité et Dignité, merci. Merci Sophie Bessis, historienne, merci. Chercheuse à l'IRIS. Si vous le permettez, nous vous réinviterons toutes les deux pour la suite de ce travail.
Volontiers.
Vous avez donné vous-même le calendrier, c'est dans les toutes prochaines semaines. Merci encore à toutes les deux d'être venues au micro de France Inter, nous informer sur cet aspect très important de la jeune démocratie tunisienne.
18h36.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault. Et
bonsoir Nicolas.
Direction Madagascar où se tenait ce week-end le 16e sommet de la francophonie.
Et avec pas moins de 80 États représentés, plus de 2000 invités, porte-parole en quelque sorte de près d'un milliard de francophones à travers le monde. Véritable défi d'organisation pour Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète, au 5e rang des 25 plus pauvres selon le dernier classement du FMI. Et la situation, on le sait, ne s'améliore guère. 4 longues années de crise politique, une économie totalement sous perfusion, une insécurité croissante et un système de santé défaillant, voire inexistant. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Mickaël.
Alors vous revenez précisément de Madagascar, Thibault. Épreuve, s'il en était besoin, du drame sanitaire qui touche l'île. Presque la moitié des départements malgaches abritent une maladie que l'on pensait aujourd'hui disparue, la peste.
Environ 500 cas par an depuis le début des années 80, des flambées régulières dans des départements très enclavés comme Bema, Tazana. 17 villages, 20 000 habitants situés sur un plateau à 200 km à l'ouest d'Antananarivo. Des centaines de maisons en terre rouge, dont celle d'Ernest. Cet agriculteur vit avec les 30 membres de sa famille dans un hameau isolé. L'année dernière, son neveu de 12 ans est mort de la peste.
Il s'est plaint de maux de tête. Deux jours après, un bubon, un ganglion est apparu au niveau de son aisselle. Ça avait l'air assez grave, alors on a décidé d'aller consulter. Le problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'argent pour louer un véhicule et l'évacuer vers le centre de santé de Bemaha Tazana. Ce n'est qu'au bout de 8 jours qu'on a réussi à rassembler la somme nécessaire. Mais mon neveu est mort sur la route.
Et 31 cas de peste recensés l'an dernier à Bema, Tazana, 9 morts. C'est deux fois plus que les 3 années précédentes, Thibault.
Et tous ces cas, ces 31 cas, sont répertoriés dans un registre qui est tenu par le docteur Monique Ragérisson. Depuis 8 ans, c'est elle qui dirige le centre de santé de Bema, Tazana.
La peste se soigne. C'est une maladie qui se traite facilement. Il faut simplement que la personne infestée n'arrive pas trop tard au centre de santé. D'une manière générale, les patients qui ne sont pas là à temps sont les plus réticents au traitement. C'est difficile de les convaincre. Ce sont donc eux les premières victimes. Dans notre ville, le niveau d'éducation est faible. C'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'il faut se soigner. Il y a aussi ceux qui se font suivre par des médecins traditionnels. C'est une question de culture. Lorsqu'ils apprennent que la maladie se soigne par injection, ils refusent le traitement à cause de leurs croyances. Je le répète, on ne meurt pas de la peste. C'est une maladie qui peut être facilement soignée.
Voilà, une maladie facilement soignable. Et c'est vrai, la peste est essentiellement transmise par les rats et leurs puces et on peut effectivement s'en protéger.
Avec des outils très simples, comme cette vingtaine de pièges à rats, des cages avec des appâts installés tous les soirs par deux habitants responsables de la lutte contre la peste. Une fois capturés, les rongeurs sont noyés dans de l'eau savonneuse, ils sont ensuite brûlés, enterrés. L'objectif, éradiquer les rats, les puces et donc la maladie. La loi a été formée en début d'année par l'Institut Pasteur. Avec son masque et ses gants, cette villageoise est en première ligne dans le combat contre la peste.
Je me sens très utile pour ma communauté. L'année dernière, à la même période, on avait déjà des cas de peste. Cette année, il n'y en a pas et il faut espérer que ça dure. La formation de l'Institut Pasteur a eu un effet bénéfique. Je suis très fière et j'ai conscience qu'avec nos actions, on sauve des vies. Les habitants du village nous soutiennent. Ils comprennent qu'il est très important de connaître des techniques pour éviter la propagation de la maladie. C'est bien de capturer les rats, mais il est tout aussi important de sensibiliser la population.
Et parmi ces bonnes pratiques, installer des raticides dans les maisons, éviter les feux de brousse, évacuer les poubelles, des méthodes à la portée de tous, mais insuffisantes pour éliminer la maladie. Tojo Rami Angi Adjason est chercheur à l'unité peste de l'Institut Pasteur.
C'est une maladie qui s'est fixée sur les hauteurs et ne veut plus partir. Tant qu'il y aura les rats, tout le monde peut être malade.
La sensibilisation, vous pensez que ça peut éradiquer la peste à Madagascar ?
Éradiquer la peste, je pense que le mot est un peu fort pour éradiquer, puisque ça fait déjà des années que la peste est bien installée. Mais plutôt diminuer les cas de décès.
20 000 cas de peste ont été recensés depuis une quinzaine d'années dans 24 pays, un peu moins de la moitié à Madagascar.
Thibault Lefèvre, de retour de Madagascar. Merci beaucoup.
Et en bref, Mickaël, cette étude de la FIF Pro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels.
Et une étude qui tord le cou à bon nombre de clichés qui collent au maillot des footeux. Étude co-réalisée par le syndicat et par l'université de Manchester, basée sur le témoignage de près de 14 000 joueurs, évoluant dans 54 pays, 87 championnats différents à travers l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on y apprend d'abord que seuls 2% des joueurs ont une rémunération annuelle équivalente ou supérieure à 680 000 euros, alors que plus de 45% des joueurs professionnels gagnent moins de 945 euros par mois. Le salaire net médian se situe donc entre 945 et 1900 euros mensuels, très très loin évidemment des salaires du PSG, de la Juve, du Real ou du Bayern. La FIFPro établit du coup trois grandes catégories de joueurs. La première, c'est l'élite, hein, les cinq principaux championnats européens, Angleterre, Espagne, Allemagne, France, Italie, qui bénéficient évidemment des meilleures rémunérations au monde. Deuxième groupe, celui des conditions dites décentes, championnat de second rang, États-Unis, Australie et Scandinavie. Et troisième groupe qui rassemble la très grande majorité des footballeurs professionnels, les joueurs en situation de précarité. Et cela concerne la plupart de ceux qui évoluent en Europe de l'Est, en Amérique latine et en Afrique. L'étude montre enfin que 7% des joueurs ont été approchés pour truquer un match. Le chiffre montant même à 11% pour ceux qui ont passé la trentaine. 9% des joueurs avouent avoir été victimes de violences, 8% de discrimination, 16% de harcèlement. Et pour ces derniers, près de 8 cas sur 10 concernent les championnats africains.
Et l'on reste sur le continent africain, Michael. Pas pour parler de foot, mais pour parler fripes.
Ah, les friperies qui sont en pleine expansion partout sur le continent. Et ce, grâce essentiellement, mais pas que, à l'Europe. Rien qu'en France, plus de 150 000 tonnes de vêtements sont ainsi collectés chaque année par les associations, des habits plus ou moins usés, parfois même jamais portés. Alors une grande partie finissent en chiffon, mais de plus en plus de vêtements connaissent une seconde vie en Afrique, dans ce qu'on appelle précisément les friperies. Au Sénégal par exemple, la friperie a connu son essor dès les années 80 lorsque l'industrie textile s'est effondrée. Depuis le début de l'année 2016, 33 000 tonnes de vêtements de seconde main venus d'Europe, des États-Unis et du Canada ont été importés au Sénégal. Bonsoir Amélie Tulé, correspondante d'Inter à Dakar.
Bonsoir Michael.
Alors Dakar, la capitale sénégalaise, où une dizaine de marchés sont entièrement consacrés à la friperie.
Là, nous sommes au marché hebdomadaire de Wakam. Le vendeur que vous entendez est debout sur sa table. À ses pieds, cette Dakaroise plonge les mains dans un tas de robes en vrac.
Moi, je suis un peu le style de Michelle Obama. Oui. Comme c'est un peu à la mode, donc on veut se mettre aussi à la mode. Je fouille un peu. J'ai la chance de trouver, je prends. Et comme c'est vraiment abordable, ça 100 francs, vaut mieux profiter.
100 francs CFA, pour vous donner une idée, c'est 1,50€. Ici, vous pouvez trouver un jean pour 3€, une paire de chaussures en bon état pour 5. Mais les stands qui attirent le plus de monde, Michael, c'est là, les vêtements pour enfants.
Des fois, tu peux trouver en bon état. Des fois, tu peux trouver déchiré. Des fois, tu peux trouver vieux, très vieux même. Il faut de la patience pour chercher ce qu'on veut. Dans les magasins, c'est trop cher. Et puis c'est cher, des fois les prêts à porter là, c'est chinois. Et puis ça se déchire vite, ça se garde vite. Mais ça, c'est pas chinois.
Chinois égale mauvaise qualité pour les Sénégalais. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de la fripe d'Angleterre, d'Italie ou de France. C'est donc ce que ce vendeur choisit en priorité.
Ça a beaucoup de succès parce que c'est perçu comme solide. Certains achètent ici pour ensuite aller revendre au village. Ma marchandise, je l'achète à Koloban.
Koloban, c'est le cœur de la fripe à Dakar. Un immense marché et des embouteillages la plupart du temps. Dans cette rue, les dépôts des grossistes, Amadou Lamine importe depuis 12 ans des vêtements de seconde main du Royaume-Uni.
Chaque mois, j'importe 3 à 4 containers de fripes. J'ai des clients partout, jusqu'en Guinée-Bissau.
Personne ici n'aime parler de son bénéfice, mais les affaires se portent bien. Ousmane Thiam est rentré après ses études à Marseille pour se lancer dans l'importation de fripes italiennes. Son ambition, ouvrir un centre de tri.
Si aujourd'hui j'importe des balles déjà triées, il n'y a aucune valeur ajoutée arrivée au Sénégal. C'est-à-dire j'achète la balle et je la revends telle qu'elle est. Alors que si je fais le centre de tri, ça peut contenir jusqu'à 50 emplois. Ces emplois, c'est des salaires, c'est des cotisations à la sécurité sociale. Je pense que ça peut être un avantage pour le Sénégal.
Cette idée, le réseau Le Relais, que l'on connaît bien en France, l'a déjà eu. Dans ce hangar, depuis une dizaine d'années, on trie des vêtements par catégorie. Pantalon homme, chemise femme, peignoir. 50 personnes travaillent ici en CDI. Écoutez ce que cette femme perçoit de nos habitudes de consommation.
Si j'ai compris, là-bas, à chaque fin d'année, il y a tous les placards sont vidés, il y a d'autres qui sont remplis. C'est ce que je pense. Comme vous ne mettez pas jusqu'à ce que ça soit abîmé et que vous nous l'envoyez.
Le Relais Sénégal reçoit chaque année 4500 tonnes de fripes venues de France. Pour Amad Hosseini, le gérant, le gouvernement sénégalais doit miser sur la friperie.
Quoi qu'on fasse, le pouvoir d'achat dans les pays du Sud reste ce qu'il est. Et donc, les vêtements de seconde main permettent à plus de 90% des Sénégalais de pouvoir s'habiller dignement. En même temps, c'est un facteur pour création d'emplois, de chiffre d'affaires, pour taxes. Donc vraiment, c'est un article qui a bien trouvé sa voie.
Car à ce jour, le secteur est dominé par l'informel, difficile donc de savoir combien de personnes en vivent. À part au niveau douanier, le business échappe à toute régulation. Les importateurs souhaitent d'ailleurs une révision des tarifs à la douane, car si les balles en vrac sont moins taxées, cela encouragera la création de centres de tri au niveau local.
Amélie Tullet, correspondante de France Inter au Sénégal. Merci et Nicolas, à demain.
À demain, Mickaël.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Sur France Inter.
Culture aujourd'hui avec de la soul, du rap, de la politique et de la boxe. Bonsoir Mathieu Culon.
Bonsoir.
Le rappeur Kery James sera au Zénith demain soir pour défendre son dernier album intitulé Mohamed Alix, disque dans lequel plane évidemment la figure de l'immense boxeur américain disparu cet été.
Oui, et demain ce sera une date un peu particulière pour Kery James qui approche de la fin de sa tournée avec ce nouvel album. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que le rappeur français qui a commencé au début des années 90 s'est trouvé beaucoup de similitudes avec le boxeur américain, une volonté de se battre contre les injustices, une conversion à l'islam dans les années 2000 et une capacité à s'opposer, Kery James.
La raison pour laquelle j'ai appelé cet album Mohamed Alix, ma mère m'a appelé Alix, c'est que c'est quelqu'un qui a su dire non, tout simplement, et aujourd'hui ils sont rares les hommes qui disent non. Il a dit non à la guerre du Vietnam, ça lui a coûté très cher, et c'est en même temps ce non qui l'a fait rentrer dans l'histoire, quoi. Lui, il a dit non à la guerre du Vietnam, moi j'ai dénoncé l'intervention de la France en Libye par exemple. Avant, il n'y avait pas besoin de dire le rap conscient, le rap était conscient. Le rap traditionnel nécessite maintenant qu'on l'appelle rap conscient, alors que c'est le rap tel qu'il a toujours été à l'origine. Je suis complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le rap français. Les gens sont maintenant habitués à des choses avec très peu de contenu, ils s'intéressent pas au monde, mais bon, voilà, on continue le combat.
Ils font des singles, je fais des classiques,
je fais des classiques, je fais des classiques.
Vole comme un papillon, pique comme une abeille,
pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vole comme un papillon, pique comme une abeille, vole comme un papillon, pique comme une abeille, vole comme un papillon, pique comme une abeille, vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Ni devant le dollar, ni devant l'ennemi.
Mohamed Alix, le titre qui donne son nom au dernier album de Kery James, hommage appuyé, Mathieu, au mythique boxeur.
Oui, Kery James donc en concert demain, et le plus incroyable, c'est que l'ex-femme de Mohamed Ali, Khalila Kamadjo Ali, a eu vent de cet hommage. Elle a été particulièrement touchée par cette attention et a décidé de se rendre au concert demain. Khalila, qui a donc accompagné Mohamed Ali dans les années 60, elle a côtoyé les plus grandes stars de l'époque, l'occasion pour nous de la rencontrer et de lui demander justement le rapport qu'entretenait Mohamed Ali avec la musique.
He liked the soul music.
Il aimait la soul music.
J'ai rencontré tellement de gens qui gravitaient autour de Mohamed Ali. Elvis, John Lennon, les Beatles, il était très ami avec Bob Dylan, Frank Sinatra, qui était investi dans le mouvement des droits civiques pour que les Noirs puissent aller à la plage, ce qui leur était interdit à l'époque. C'était des années révolutionnaires et tout ce qui était révolutionnaire tournait autour de Mohamed Ali parce que les gens voulaient la liberté. Martin Luther King, Malcolm X, c'était des gens merveilleux. Michael Jackson, plus tard Bruce Lee. C'est moi qui ai pris la plupart des photos. Je prenais soin qu'il soit en une des magazines. Je faisais comme Jackie avec John Kennedy. Je me souviens à Woodstock, on a rencontré beaucoup de gens. C'était dur. Je crois que son héritage, c'est ce sentiment de paix. Bats-toi pour ce à quoi tu crois vraiment et tu t'y tiens. Les gens aujourd'hui régressent. Les jeunes d'aujourd'hui seront les leaders de demain. Et nous devons leur apprendre la paix, l'amour, immédiatement. Si on ne protège pas notre jeunesse, alors on aura tout perdu.
Yeah.
qu'il est bon ce James Brown, extrait de la PO du film Hell Up in Harlem, sorti en 1974. James Brown, pardon, ami intime, Mathieu, de Mohamed Ali.
Oui, un ami tellement intime qu'il donnera d'ailleurs un concert à Kinshasa pour le fameux combat qui opposa Mohamed Ali à George Foreman cette même année, en 1974. Mohamed Ali qui est né sous le nom de Cassius Clay et qui changera de nom après sa conversion à l'islam. Son ex-femme se souvient de cette conversion qui correspond à un moment crucial de sa vie.
Je l'ai beaucoup influencé. Il s'appelait Cassius Clay et je lui ai fait remarquer que ce n'était pas un très joli nom. Je lui ai dit, tu dois avoir un plus beau nom que ça. Et je lui ai rendu son autographe. Il m'a dit qu'il allait être champion du monde, mais il n'avait que 18 ans à l'époque. Moi, j'étais musulmane. Vous savez comment sont les hommes. Je l'intéressais pas mal. Et du coup, il s'est penché sur l'islam. Mais il y avait une autre raison. Il venait de gagner la médaille d'or aux JO de Rome pour les États-Unis. Et quand il est revenu dans le Kentucky, il était célèbre. Il allait dans le centre-ville. Mais on ne lui permettait toujours pas de rentrer dans un restaurant à cause du racisme. C'était incroyable. C'est le racisme surtout qui l'a conduit vers l'islam.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised.
Voilà le titre de Gilles Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised, morceau de 74, chanson très engagée directement sous influence de Mohamed Ali, tout comme ce dernier album donc de Kerry James, Mohamed Alix, Kerry James en concert demain au Zénith de Paris en présence de l'ex-femme de Mohamed Ali. Merci Mathieu Culeron.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et c'est l'édito de Vincent Giret du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Ce soir Vincent, vous nous emmenez en Italie à 5 jours d'un référendum capital.
Oui, car il souffle un vent mauvais, un vent très mauvais, même de l'autre côté des Alpes. Nicolas, certes, prenons des précautions de bon aloi, restons prudents sur l'unanimité des sondages. On a compris ces derniers temps que l'opinion aimait déjouer tous les pronostics. Tout peut donc encore changer dans les 5 jours qui viennent. Mais quand même, tout semble en place pour que dimanche prochain se déroule en Italie, un nouveau cataclysme, un pas de plus vers la fragmentation du monde occidental. Après le Brexit, ce sont cette fois les Italiens, ou plutôt une majorité d'entre eux, qui semblent, restons prudents, tenter de renverser la table et de voter eux aussi pour une sorte d'exit en forme de saut dans l'inconnu. Alors résumons, les Italiens sont convoqués à un référendum sur les institutions proposé par le Premier ministre de centre-gauche, Matteo Renzi. L'objectif affiché est de donner plus de stabilité politique à un pays qui a connu 60 gouvernements depuis 1946, j'ai compté, c'est-à-dire en moyenne un tous les 14 mois. Cette réforme mettrait ainsi fin au bicamérisme parfait existant actuellement. Elle réduirait ainsi les pouvoirs du Sénat, qui ne pourrait plus renverser le gouvernement, et elle réduirait aussi le nombre de sénateurs. Seulement voilà, ce projet de réforme est complexe. Seuls 9% des Italiens disent en connaître le détail, et la campagne prend l'allure d'une foire d'empoigne. Elle déchaîne une violence, une trivialité qui n'ont rien à envier à ce qu'on a pu entendre au Royaume-Uni ou aux États-Unis il y a quelques semaines seulement.
C'est-à-dire concrètement, Vincent ?
Ah, vous voulez des détails ? En voici, Nicolas. Allez. Ils sont assez peu ragoûtants. Matteo Renzi, qui a décidé de sceller son avenir politique à la victoire du oui au référendum, a qualifié ces derniers jours de « ramassi » la coalition du non. Et en retour, eh bien, son adversaire le plus inspiré, Beppe Grillo, l'histrion démagogue du mouvement 5 étoiles, l'a comparé à une truie blessée. C'est dire la qualité d'un débat où tous les coups sont permis et qui se transforme en pour ou contre Renzi, pour ou contre les élites. Au cours de cette incroyable campagne, le Premier ministre n'aura pas hésité à se comporter de manière tout aussi vile et irresponsable que ses adversaires. Le problème est qu'en cas d'échec, l'Italie entrerait à la fois dans une période d'instabilité politique, sans parti majoritaire, et cela au moment même où le système bancaire italien menace d'imploser sous le poids de ses créances. tendances douteuses. L'Italie fait ainsi courir le risque, bien réel, d'une nouvelle épreuve pour toute la zone euro. En ce sens, d'ailleurs, un vote négatif ce dimanche provoquerait à court terme davantage de dégâts que le Brexit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe n'avait pas vraiment besoin de ça.
Et que veut le mouvement 5 étoiles exactement, Vincent?
D'abord et surtout renverser la table, Nicolas. Pas de programme précis, faire tomber Matteo Renzi, surtout donner un grand coup de balai, défier les élites. Son chef a d'ailleurs applaudi la victoire de Donald Trump aux États-Unis, dont il partage la faconde et l'absence totale de surmoi. Le correspondant du Monde a ainsi entendu ce samedi à Rome, au cours d'un meeting, Beppe Grillo faire cet aveu désarmant. Le non, a-t-il affirmé, vous devez le décider avec le ventre, pas avec votre tête. Faites confiance à votre ventre, non à votre esprit qui a été conditionné. Fermez les guillemets. Le ventre, tout est dit depuis Bertolt Brecht. Décidément, les ventres restent encore féconds dont sont sorties les bêtes immondes.
Vincent Giret du quotidien Le Monde, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20, consacré ce soir au numérique à l'école. Apprendre grâce aux ordinateurs, apprendre à se servir des ordinateurs, apprendre le code informatique comme on apprendrait une langue vivante. Dès lors que les écrans sont partout, l'école doit-elle accompagner le mouvement ou au contraire y résister? Le débat est toujours vif. Il est intéressant sur le plan intellectuel et il résonne de manière singulière le jour où l'on apprend que le niveau en maths des élèves de CM1 et de Terminale S baisse très fortement en France. Vos questions donc pour ce téléphone sonne numérique et scolaire 01 45 24 7000. Le journal à suivre.